parler à la place de Robert Harrison, à qui donc les organisateurs avaient passé commande d'une conférence inaugurale, n'est pas chose facile. Et le remplacer ainsi au pied levé est une gageure pour moi, qui ne suis pas du tout, contrairement à vous, spécialiste de la question des jardins. Je ne suis en effet ni paysagiste, ni urbaniste, ni architecte, ni agronome, ni botaniste, ni sociologue, ni politologue, ni ethnologue, ni philosophe, mais professeur de littérature française et historienne du théâtre, ce qui vraiment n'a rien à voir. Ma seule légitimité à être parmi vous, c'est mon activité annexe et périphérique de traductrice de l'œuvre de Robert Harrison, et seulement de l'œuvre de Robert Harrison, depuis Forêt, essai sur l'imaginaire occidental, paru chez Flammarion en 1992, jusqu'à Jardin, grâce aux soins de l'éditrice Sophie Bancard, que je remercie d'être venue nous écouter, qui a accompagné l'œuvre de Robert Harrison en France depuis 20 ans. Pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas cet auteur, je dirais que ses essais philosophiques s'appuient sur des analyses d'œuvres très diverses, depuis les textes fondateurs, tels l'épopée de Gilgamesh, Homère, la Bible, le Coran, la philosophie grecque antique, la Divine Comédie de Dante, dont il est spécialiste, jusqu'aux poètes contemporains, en passant par l'expérience personnelle et l'histoire de l'art, dans un très vaste champ d'investigation, ce qui est tout à fait exotique pour moi qui suis spécialiste d'histoire du théâtre du XIXe siècle. La pensée de Robert Harrison a pour fil directeur une réflexion sur notre humanité dans son rapport à l'humus qui lui donne son nom. Humus sur lequel poussent les forêts, dans lequel sont inhumés les morts, titre d'un autre de ses livres paru au Pommier. Humus que travaille à enrichir le jardinier dont Harrison fait la figure emblématique de la condition humaine. Jardin, donc, qui existe en deux formats, la version originale et la réédition de poche récente. Jardin, réflexion sur la condition humaine, est son dernier livre, paru en 2007. Mon propos ne sera pas de le résumer. Il y a donc quantité d'exemples littéraires ou philosophiques dont je ne parlerai pas aujourd'hui pour vous laisser la joie de les découvrir tout seul, mais de répondre à la commande que m'a passée éditeur Gond, mettre en évidence l'hypothèse développée par Harrison, selon laquelle, au fil des âges, on observe en temps de crise un regain d'intérêt pour les jardins, parce qu'ils constituent des refuges pour des hommes désorientés, un mode de résistance à la destruction sociale, et une forme d'invention originale et régénératrice. Pour ce faire, je partirai préalablement du concept matriciel convoqué par Harrison dès le premier chapitre de son livre, celui de cura. Cura, mot latin dont la traduction anglaise transparente est care. Or, précisément, et c'est le point que j'examinerai pour finir et pour mettre en perspective le livre de Robert Harrison selon ma propre lecture, l'éthique du care, si elle n'est pas centrale dans son propos, il emploie souvent le mot dans un sens plus large que les actuels théoriciens et théoriciennes, notamment féministes, du care, cette éthique n'en est pas moins l'un des horizons possibles de ce livre, comme, dans une certaine mesure peut-être, de ce colloque. Tout au long de la traduction de Jardin, je me suis heurtée à la difficulté de rendre en français le mot care, lui-même équivalent du latin cura. Cura est, pour Harrison, l'allégorie de la condition humaine, il s'inscrit en cela dans la filiation de Heidegger, qui, dans Être et temps, reprend à son compte la fable du mythographe Hygin, que je ne vais pas tarder à vous remettre en mémoire. Pour Heidegger, cura, qu'il traduit par Sorge, le souci, le soin, est le mode fondamental d'être au monde du Dasein. Chez Harrison, cura devient la figure tutélaire du jardinier, lui-même emblème de la condition humaine. D'où vient la difficulté de traduire le nom commun, cura, en français, a fortiori le nom propre de la déesse. Ce nom commun latin combine principalement quatre sens. Le premier, c'est le soin, l'intérêt que l'on prend aux affaires d'autrui et aux siennes propres, leur prise en charge, l'exactitude et l'application que l'on met à les satisfaire. Le deuxième, c'est l'administration d'une chose publique, la cure. Le troisième, c'est le souci, la sollicitude, l'inquiétude. Le quatrième, c'est l'amour et ses tourments. Ces sens multiples se retrouvent intégralement dans l'anglais care. Bien qu'il ne dérive pas étymologiquement de courant, care n'en est pas moins sa traduction transparente. Mais les différents sens de cura et de care ne subsistent pas tous très loin de là, dans le substantif français cure. L'emploi positif de cure comme synonyme de traitement, guérison, est un dérivé de son étymon cura, dont il ne garde que l'essence premier, de soin, intérêt, souci, sollicitude, que dans la tournure négative, n'en avoir cure. Inusité à la forme positive, affirmative. Cure est donc inopérant pour traduire cura et care, deux mots difficiles à rendre en français, comme le savent ceux qui aujourd'hui en France s'intéressent à l'éthique du care. Ils doivent choisir entre trois possibilités pour traduire ce concept. Première possibilité, ne pas le traduire et garder l'anglais care, comme le font Fabienne Brugère dans son Que sais-je sur l'éthique du care, ou Pascal Molinier, Sandra Laugier et Patricia Paperman dans leur collectif Qu'est-ce que le care ? D'où la nécessité pour elles d'un sous-titre pour amorcer le déploiement sémantique de ce terme étranger, souci des autres, sensibilité, responsabilité. Deuxième possibilité, le traduire. On est alors contraint de privilégier l'un des sens du mot, en mettant l'accent soit sur la disposition morale, on traduit alors care par souci, en explicitant ou non si on entend par là souci de soi ou souci des autres, soit en mettant l'action sur l'action, en le traduisant par soin ou prendre soin, comme le font Frédéric Worms dans Le moment du soin, Frédéric Worms dont Edith a parlé ce matin et qui organise très prochainement un colloque sur le vivant, ici même, comme le font encore Edith Orgon et ses collègues pour le colloque de Cerisy 2010, prendre soin, savoir, pratique, nouvelle perspective. Troisième possibilité, le plus souvent combinée à l'une des deux autres, traduire care ponctuellement et selon les cas par soin, prendre soin, souci, intérêt, sollicitude, application, amour, etc. Ce qui a pour avantage la précision dans l'expression et pour inconvénient la dilution et donc la moindre visibilité du concept. C'est cette troisième solution que j'ai adoptée dans ma traduction de Jardin, parce que précisément Harrison ne se réclame pas ouvertement de l'éthique du care. Ça m'autorisait donc à traduire le mot différemment selon les occurrences du terme. C'est en effet moins le concept de care que la figure mythologique latine de la déesse Cura qui intéresse Harrison. La filiation passe par Heidegger, qui utilise donc dans Être et Temps cette figure comme allégorie du Dasein. Voici la fable, telle qu'elle apparaît chez le mythographe Hygin. J'ai choisi la traduction de Jean-Yves Boriot, qui prend le parti de ne pas traduire le nom propre Cura, contrairement à Heidegger, qui le traduit par Sorge, ce qui conduit les traducteurs français d'Heidegger, qu'il s'agisse de François Fezin ou d'Emmanuel Martineau, à traduire à leur tour Cura par souci, occultant du même coup le sème du soin contenu dans Sorge. Voici la fable. En traversant un fleuve, Cura vit de la boue crayeuse, s'arrêta, pensive, et se mit à façonner un homme. Pendant qu'elle se demandait ce qu'elle avait fabriqué, survint Jupiter. Cura lui demanda de lui donner l'esprit, ce qu'elle obtint facilement de Jupiter. Comme Cura voulait lui imposer son nom, Jupiter l'interdit et dit que c'était le sien qu'il fallait lui donner. Pendant que Jupiter et Cura se disputaient au sujet de ce nom, surgit la Terre en personne, pour dire qu'il fallait lui imposer son nom, puisqu'aussi bien c'était son corps qu'elle avait offert. Ils prirent Saturne pour juge. Saturne leur rendit ce jugement. « Toi, Jupiter, puisque tu as donné l'esprit, tu dois à la mort recevoir son esprit. Toi, Terre, qui lui a offert le corps, reçois le corps. » Puisque c'est Cura qui a la première façonné le corps, tout le temps de sa vie, c'est Cura qui en aura la possession. Mais puisqu'il y a controverse sur son nom, il s'appellera homme, parce qu'il apparaît que c'est de l'humus qu'il a été fait. Ce que dit cette fable, c'est que l'homme a pour condition originelle le désir irrépressible de se soucier de quelque chose et de s'y dévouer, en y appliquant tout son soin et sa sollicitude. On l'a déjà noté, la fable de Cura ressemble par bien des points au récit de la Genèse, à commencer par la fabrication de la créature à partir de l'argile, de l'humus, qui donne son nom à l'homme. Or, la refertilisation incessante de l'humus, dont il est lui-même issu, est la base de l'activité du jardinier. Activité pénible, à la fois favorisée et contrariée par la nature, tâche éternellement recommencée, qui lui rappelle perpétuellement la chute hors du paradis où tout était à disposition sans travail. Le paradis, le jardin originel, celui dont l'homme a la nostalgie, qu'aucun jardin terrestre ne saurait jamais reconstituer, et c'est heureux, est en effet ce lieu de l'insouciance, de l'inculture, à tous les sens du terme, et donc de l'aveuglement, dont Ève fit sortir Adam pour le jeter dans le temps, la finitude, le travail, la connaissance, le regard écarquillé, le souci. Là où une exégèse traditionnelle fait porter sur Ève la faute de l'expulsion du jardin d'Éden, Harrison retourne le motif pour en inverser l'axiologie et créditer plutôt Ève d'avoir fait entrer l'homme via la mortalité dans l'humanité même, en l'installant dans la médiation et non dans la fusion, dans la vue des choses et non dans l'aveuglement, dans le travail et la sollicitude plutôt que dans la pure jouissance irresponsable. En sortant du paradis, où rien n'avait d'importance, où tout était indifférent, l'homme entre dans le régime du souci, de soi, des autres, du monde. Souci qui lui apprend à distinguer dans sa vie les choses qui comptent, à identifier ses besoins vitaux, qui sont à la fois matériels, sociaux et esthétiques, tout ensemble et sans hiérarchie. C'est pourquoi le jardin d'agrément est aussi indispensable à l'homme que le potager et le verger. Harrison reprend d'ailleurs au savant italien Laureano l'hypothèse, discutable, selon laquelle chez nos ancêtres du paléolithique, les jardins d'agrément précédèrent l'agriculture. Selon Laureano, les premiers jardins ont été créés par des chasseurs-cueilleurs pour des raisons rituelles, magiques ou simplement ludiques et esthétiques, mais pas nécessairement dans un but économique et productif. Gilles Clément, pour qui il ne fait pas de doute que le premier jardin est potager, repousserait cette hypothèse. Qu'elle soit avérée ou non, elle rend au moins compte d'un phénomène anthropologique. Cultiver un jardin, comme l'art en général, serait une nécessité impérieuse, vitale et définitoire de la condition humaine. Harrison en veut pour preuve deux pratiques contemporaines, les jardins transitoires composés par des sans-abri de New York et l'expansion des jardins communautaires. Les jardins transitoires des sans-abri new-yorkais sont faits de divers matériaux de récupération, des jouets, des animaux empaillés, des drapeaux, des objets trouvés, des cartons de lait, des ordures recyclées, etc. Parfois une simple rangée de fleurs. Malgré leur pauvreté et leur minimalisme, il s'agit bien de jardins, puisque certains de leurs éléments proviennent d'une nature domestiquée, qu'ils ont un périmètre défini et qu'ils sont délibérément et méthodiquement agencés. Ce qui est remarquable, c'est que malgré la grande nécessité matérielle dans laquelle se trouvent leurs auteurs, il s'agit de jardins d'agrément et non pas de potagers ou de vergers. Chacun de ces jardins possède un style propre, si bien que les auteurs d'un livre photographique qui leur est consacré, Balmori et Morton, en concluent que les jardins proviennent d'un besoin humain irrépressible de créer, embellir et s'exprimer. À quoi Harrison ajoute qu'il s'agit aussi dans la jungle urbaine de créer un havre de paix en pleine turbulence, au point repos du monde qui tourne, selon une métaphore de T.S. Eliot. Par différence avec l'abri dont ces SDF sont dépourvus, qui correspond à un besoin spécifiquement animal, le havre de paix répond à un besoin spécifiquement humain. En donnant forme au milieu informe où il s'installe, tout jardinier donne une dimension humaine à une nature débridée. Dans le cas des jardins transitoires new-yorkais, c'est à une expansion urbaine tentaculaire dont ils sont les victimes que les sans-abri donnent une forme humaine en faisant ainsi, par défi, le geste de la maîtriser. Construire un jardin, c'est donc affirmer son humanité et pour les sans-abri, en provoquant le regard du promeneur sur leur production muette, regagner le droit à la parole dans une société qui le leur a dénié, rétablir leur inscription dans la cité qui les exclut. Rétablir le lien social menacé, telle est aussi la fonction principale des jardins communautaires. La formation de certains de ces derniers, en Amérique, dans les no man's land même de l'urbanisation galopante, est, selon Harrison, l'expression d'une résistance créatrice à la désocialisation qui menace de plus en plus de gens, et pas seulement les exclus, dans nos sociétés. Ces jardins improbables sont souvent des parcelles urbaines inoccupées qu'une population de résidents des environs, et non pas comme les terre-pleins centraux dont on a parlé, des carrefours dont on a parlé ce matin, et qui sont pris en charge par l'administration, là ce sont des initiatives individuelles, des propriétaires, des locataires, des squatteurs, des sans-logis, qui expriment ainsi une sorte de célébration chlorophyliaque libertaire au sein d'un espace urbain confiné, faisant advenir des communautés. C'est le cas, par exemple, de l'initiative prise il y a quelques années par deux inconnus, Carl Page et Annette Smith, qui se sont rencontrés sur le terre-plein central de Quesada Avenue, dans le quartier difficile de Bayview à San Francisco, lui étant venu couper un buisson moribond et elle étant venue déterrer des vers de terre pour fournir des appâts de pêche à son frère. Une fois la conversation engagée entre eux, l'idée leur vient de planter un jardin, là, sur le terre-plein central. Ils le débarrassent des détritus qui s'y sont accumulés, le bêchent, le fertilisent, l'ensemencent, et ils font pousser des fleurs, des herbes et des légumes. Le voisinage s'y retrouve bientôt, transformant ce no man's land, naguère fréquenté uniquement par les toxicomanes et les vagabonds, en lieu de retrouvailles et de conversations. Même si on n'y trouve pas d'interlocuteur, les jardins transitoires new-yorkais dont j'ai parlé précédemment relèvent aussi de cet esprit relationnel. En s'offrant aux yeux du promeneur, ils appellent une reconnaissance et une réponse. Ce sont donc des actes de langage, un combat pour le droit à la parole. Dans la jungle urbaine, ce sont autant de raids dans l'inarticulé, pour reprendre encore une formule à T.S. Eliot. Au désir d'expression créatrice s'ajoute manifestement là une nécessité plus impérieuse encore, renverser les barrières de l'aphasie. Comme les jardins de quartier, et de manière plus poignante, ils disent le besoin spécifiquement humain de s'entretenir avec son prochain. Aussi sont-ils avant tout des actes de rédemption politique. Hannah Arendt, dans « De l'humanité dans de sombres temps », justifie la fuite hors du monde en temps de barbarie, d'attentat à l'humain ou d'oppression contre laquelle on reste impuissante, à une condition. Que la réalité ne soit pas ignorée, mais constamment présente et reconnue comme ce dont il faut s'évader. Parce qu'ils sont à la fois circonscrits mais ouverts sur le monde qui les entoure, les jardins des sans-abri new-yorkais et les jardins communautaires ou de quartier remplissent cette exigence qui permet une refondation du lien. Harrison met ainsi l'accent sur la dialectique entre clôture et ouverture qui fait la qualité civique d'un bon jardin. Parce qu'il existe aussi, on en parle moins dans ce colloque, mais on peut en parler aussi, des mauvais jardins et des pratiques vicieuses, et non pas seulement vertueuses, du jardinage. Le modèle paradisiaque du jardin, à ce titre, est à manier avec précaution. Le mot « paradis », qui vient du persan « paridaïsa », signifie « clos de mur ». Mais la clôture absolue du jardin sur lui-même, selon Harrison, est un leurre, voire un danger. Au paradis, Adam et Ève sont hors du réel, de la vie même, où seule la chute les fait entrer. Dans le roman de Giorgio Bassani, Le jardin des Finzi Contini, que vous connaissez peut-être par l'adaptation cinématographique qu'en a faite Vittorio De Sica, une riche famille juive de Ferrare se réfugie ainsi dans la sociabilité utopique de son beau jardin en 1938, dans l'Italie fasciste qui commence alors à prendre des mesures discriminatoires antisémites. Évincés du club de tennis où ils retrouvaient leurs amis, les jeunes Finzi Contini reconstruisent dans leur jardin un microcosme accueillant, ce qui les amène à élargir, et c'est tant mieux, leur cercle social à des milieux moins huppés que ceux qu'ils fréquentaient auparavant. Mais cette utopie se développe au détriment de la prise en considération de la réalité qui les exclut et qui les menace. Le repli dans leur jardin paradisiaque les rend sourds et aveugles au sort terrible qui les attend, la déportation et l'extermination. En ces sombres temps, il eût mieux valu pour eux rester attentifs au bruit du monde plutôt que de refuser d'entendre gronder les menaces en se cloîtrant derrière les murs de leur jardin. Harrison donne un exemple inverse de la refondation de l'humain par la retraite au jardin en comparant le cadre narratif du Décaméron de Boccace et l'éthique de la conversation mise en œuvre dans le récit même des nouvelles. L'introduction du Décaméron indique la cause de la retraite de 2 semaines sur la colline de Fiesole de 7 jeunes femmes et 3 jeunes hommes qui seront les conteurs des nouvelles. Il fuit la peste noire de 1348 qui décime Florence. Mais ce n'est pas seulement la contagion qu'il fuit. C'est aussi l'anéantissement des liens sociaux et familiaux via le « sauf qui peut » et le « chacun pour soi sauvage » déclenché par la peur de la contagion. Dans les somptueux jardins de leur brève villégiature, à laquelle, comme à notre Décade, est fixé d'emblée un terme, contrairement à l'enlisement sans avenir et sans solution des Finzi Contini à Ferrare, ils restaurent le lien civil abîmé, sans perdre de vue l'horizon éthique de leur retraite. En effet, cette dernière a beau prendre la forme d'une fuite hors du monde, il s'applique néanmoins à respecter un code idéal de sociabilité, où la pudeur des femmes est préservée, où la parole est équitablement répartie, où les jours fériés sont chômés, le samedi et le dimanche de chacune des 2 semaines est chômé, si bien que leurs entretiens comme les nôtres durent 10 jours, où les règles du bien-vivre sont librement consenties, afin que l'ordre, loin de s'opposer au plaisir, procure le plus de plaisir possible, ce qui est aussi le cas du jardin. À partir de l'étude de plusieurs nouvelles, Harrison met en perspective l'hymne à la conversation, au bon compagnonnage et à la philosophie épicurienne que célèbre à la fois la forme narrative et la morale du Décaméron. Il les met en perspective avec la fidélité sans faille de Boccace tout au long de sa vie à l'idéal républicain et avec le cadre symbolique de la culture de soi, des autres et du monde que constitue le jardin, à la fois lieu et thème de la fiction. Cette dimension épicurienne du jardin, Harrison la développe dans le chapitre qu'il consacre au rapport entre jardin et établissement d'enseignement supérieur. Qu'il s'agisse des parcs et bosquets des célèbres écoles grecques, de la villa romaine, des plantations de la montagne Sainte-Geneviève dans le Paris médiéval, des jardins des académies italiennes de la Renaissance, du College Garden britannique, de l'idyllique campus américain, ce rapport n'est pas seulement, selon Harrison, dû à l'agrément du cadre, il s'agit aussi d'un rapport analogique entre l'activité du jardinier et celle du pédagogue. Dans le Phèdre de Platon, à l'enseignement par écrit qu'il compare au stérile jardin d'Adonis, ces plantes en pot déjà germées qui ne produisent pas de graines, Socrate oppose, dans un passage très célèbre, la dialectique nécessairement orale et seule fertile. Elle consiste, je lis Platon, quand on a trouvé une âme qui s'y prête, à y planter et à y semer avec la science, selon les règles de la dialectique, des discours capables de se défendre eux-mêmes et aussi celui qui les a semés, et qui, au lieu de rester stériles, portent une semence qui donnera naissance en d'autres âmes à d'autres discours, lesquels assureront à la semence toujours renouvelée l'immortalité et rendront ses dépositaires aussi heureux qu'on peut l'être sur terre. Parce que le vivant les anime, le sol et l'âme se prêtent tous deux à la culture, à l'activité soigneuse du jardinier ou du pédagogue. Selon Harrison, l'âme n'est pas seulement comme le sol, elle est elle-même une sorte de sol où le professeur, comme le jardinier, peut semer ses meilleures graines et soigner leur croissance jusqu'à maturité. J'ajouterais d'ailleurs que les expressions françaises et allemandes « jardin d'enfants » et « kindergarten » prennent au sérieux cette métaphore en l'appliquant à l'éducation des plus jeunes. L'Académie de Platon et le lycée d'Aristote comportaient des jardins, mais c'est avec la 3e grande école grecque, celle d'Épicure, qu'on a précisément appelé le jardin, que la métaphore de l'éducation comme forme de souci et de culture de soi et des autres est la plus parlante. Harrison rappelle qu'elle fut fondée par Épicure en des temps politiquement sombres. Épicure se trouvait à Athènes quand l'orateur Hypéride, comme plusieurs de ses confrères, fut exécuté, et quand Démosthène se suicida pour ne pas connaître le même sort. La création du jardin, établissement entièrement privé, dont il était lui-même propriétaire et qui n'avait aucun compte à rendre aux gymnasiarques de la cité, est en soi un geste de dépolitisation du concept de bonheur. Ce geste affirme que la philosophie doit servir le summum bonum, c'est-à-dire la vie, et non pas les intérêts publics. Le jardin d'Épicure était un potager entretenu par ses disciples, non seulement pour l'autosuffisance vivrière, mais aussi à des fins éducatives, scientifiques et morales. Jardiner leur faisait apprendre les rythmes de la nature, dans le microcosme du jardin où convergeaient les forces vitales, l'âme humaine renouait ses liens avec la matière, les choses vivantes répondaient positivement aux sollicitations prévoyantes des jardiniers, qui apprenaient en retour la principale leçon délivrée par le jardin, la mortalité essentielle de toute chose vivante, corps et âme, et la nécessité de cultiver l'âme comme le corps. D'où le rapport essentiel, selon Harrison, entre ce que Michel Foucault, au sujet de l'Antiquité, appelle « culture ou souci de soi » et la culture des jardins. Comme le jardin, la quête épicurienne de l'ataraxie, le bonheur par la suppression des douleurs et des plaisirs, nécessite une vigilance et un entretien continuel. Comme le dit Harrison, une même tension traverse l'ataraxie et la sérénité close des jardins, la tension entre ordre et entropie. Faute d'une vigilance, d'un contrôle et d'un investissement constant, l'ordre domestique du jardin est renversé par les forces sauvages de la nature. Semblable vigilance était nécessaire pour protéger l'ataraxie. En réalité, l'état d'ataraxie se caractérise par une tension particulière derrière le calme et la maîtrise, semblable à la tension maîtrisée qui informe les apparences sereines des jardins. Le bonheur individuel auquel l'ataraxie donne accès passe en effet par un travail sur soi consistant à cultiver certaines qualités, telles que l'art de la conversation, l'amitié, le charme du discours et des manières, la considération pour autrui égale quelle que soit la position sociale de l'autre, la sincérité du discours. Aucune de ces qualités n'est donnée spontanément à l'homme, elles font toutes l'objet d'une culture et d'un souci de soi dont le jardinage est le modèle. Notons que plus d'une de ces qualités est tournée vers autrui, le souci de soi pouvant être une forme du souci de l'autre et réciproquement. Le repli du jardin loin de l'agitation politique est, là encore, un moyen de refondation du lien. En prenant ses distances avec la réalité politique de son temps, Épicure ne cherche pas à y échapper. Comme le dit Harrison, le jardin était pour Épicure le lieu dans lequel et depuis lequel reconsidérer la réalité, réinventer les possibles. Un lieu où donner aux vertus humaines et sociales que le soi-disant monde réel foulait aux pieds, la chance de refleurir dans un environnement propice. À l'image du jardin épicurien, l'amitié, la conversation, la reconnaissance et la tranquillité d'esprit ne sont pas des plaisirs solitaires. Ce sont vertus cultivées ensemble, à plusieurs. Des vertus sociales, pourrait-on dire, ou mieux encore, des vertus politiques en exil. Je voudrais, pour finir, examiner à mon tour, plus en détail, le rapport entre l'allégorie de Koura, qui intéresse Harrison, et l'éthique du jardinier comme emblème du care. Ce rapprochement s'impose par la traduction en anglais de Koura par care, même si, je le rappelle, Koura n'est pas l'étymon de care, lequel vient du vieil anglais karu, dérivé lui-même du haut allemand kara, la plainte. C'est en anglais cure, comme le français cure, qui vient du latin cura. Comme je l'ai dit pour commencer, Harrison ne s'inscrit pas explicitement dans la mouvance de l'éthique du care, dont il rappelle néanmoins en note ce qu'elle doit à Lévinas, dans quel contexte féministe elle s'est développée aux États-Unis depuis les premiers travaux de Carol Gilligan, et quelle inflexion récente elle a prise en direction de l'écologie. Même si le lien avec l'éthique du care n'est pas explicitement revendiqué ni théorisé dans ce livre, il n'en est pas moins, comme je le disais en introduction, un horizon possible. C'est de cet horizon, vu depuis le point de vue du jardinier, donc, que je voudrais, à mon tour, dresser les principaux contours. En effet, si nous sommes aujourd'hui dans une époque de renouveau des jardins, c'est sans doute parce que nous vivons aussi un « moment du soin », pour reprendre le titre du récent livre de Frédéric Worms. Le « moment », c'est-à-dire à la fois l'époque et l'importance. « Moment » signifiant étymologiquement le poids d'une chose, et donc l'importance qu'on lui accorde, en reconnaissant qu'elle fait partie des choses qui comptent, de ce à quoi l'on tient, « what we care for ». Parmi les choses qui comptent aujourd'hui, Il y a, et les deux sont liés, la double réévaluation du soin dispensé à autrui et du soin que nous devons prendre de notre environnement, ou plus exactement, de ce que Gilles Clément appelle « jardin planétaire », si nous voulons sauvegarder notre espèce. Cette double réévaluation s'effectue à contre-courant de l'ultralibéralisme, qui, d'un point de vue moral, en valorisant l'entreprise individuelle, ravale le soin à la sphère privée, sentimentale et d'une activité féminine ou subalterne peu qualifiée et socialement déconsidérée, et d'un point de vue économique, obéit à un idéal d'accroissement continuel des richesses, au risque de piller, polluer et finalement détruire la nature elle-même. La condition humaine, dont selon Harrison, l'activité du jardinier est l'emblème, est d'être possédé tout le temps de son existence par Koura. C'est-à-dire non pas seulement par le souci au sens d'inquiétude, de sollicitude et d'intérêt que l'on prend aux affaires d'autrui et aux siennes propres, mais aussi, on l'a vu en déployant le spectre sémantique du mot, leur prise en charge, l'exactitude et l'application que l'on met à les satisfaire, l'administration de la chose publique, l'amour enfin. Le sens de care dans le champ de l'éthique du même nom correspond au départ à des activités bien précises, où le jardin n'a pas sa place. Chez les féministes américaines qui ont forgé la notion, le care désigne principalement les activités de soins prodiguées aux êtres vulnérables, dont les besoins vitaux nécessitent, pour être satisfaits, une assistance extérieure, puisque leur âge ou leur état de santé, physique ou mental, les prive de l'autonomie dont l'ultralibéralisme fait la valeur suprême. Les enfants, les vieillards, les malades, les fous, les exclus. Mais au-delà de la charité aux personnes vulnérables, l'enjeu est de mettre au jour l'importance du care dans l'économie libérale elle-même. Importance cachée, importance déniée. Puisque les valeurs de rentabilité, de réussite individuelle, de productivité et de performance semblent être en contradiction avec celles de l'assistance aux plus faibles. L'éthique du care met ainsi la société libérale devant ses propres contradictions. Le self-made man le plus autonome n'en a pas moins eu besoin de care pendant son enfance, a besoin de quelqu'un pour lui laver ses chaussettes, aura besoin de soins s'il a la chance d'atteindre le grand âge, et est susceptible d'en avoir besoin en pleine maturité, en cas de maladie, d'accident ou de détresse matérielle ou morale. Plus généralement, l'éthique du care considère la vulnérabilité comme le trait essentiel de l'humanité, ce qui constitue un tournant majeur dans l'histoire des sciences de l'homme. Mais le domaine du care s'étend dans la philosophie contemporaine à la condition humaine en général, à l'heure où se fait sentir la nécessité d'un nouvel humanisme, l'humanité s'étant rendue capable de se détruire elle-même, de mourir sous ses richesses. D'où cette définition extensive et souvent reprise du care, donnée par Berenice Fisher et John Tronto, définition qui ne se limite plus au seul service à la personne dépendante, et dans laquelle est incluse implicitement la notion de jardin planétaire. Je vous la donne. Le care est une activité caractéristique de l'espèce humaine qui inclut tout ce que nous faisons en vue de maintenir, continuer ou réparer notre monde, de telle sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Ce monde inclut nos corps, nos individualités et notre environnement que nous cherchons à tisser ensemble dans un maillage complexe qui soutient la vie. L'éthique du jardinier couvre le spectre entier de la vaste notion de care, du soin curatif aux soins que nous devons prendre de l'environnement. Les vertus du jardinage vont bien au-delà de la fonction thérapeutique classique du jardin, qui va elle-même de l'herboristerie médicinale à la réinsertion professionnelle de jeunes en difficulté intellectuelle via l'apprentissage de l'horticulture, en passant par les vertus apaisantes de la contemplation du paysage et de la promenade au jardin en période de convalescence. Elles s'étendent jusqu'à la fonction assignée aujourd'hui à l'homme de jardinier planétaire, fonction à laquelle on ne l'avait pas préparé, celle de protéger le vivant. De l'une à l'autre de ces deux extrémités du spectre, les vertus du jardinage concernent en effet à la fois le souci et le soin de soi, des autres et du monde. Les vertus du jardinage dans la culture de soi comprennent notamment, j'en oublie bien sûr, la patience, la ténacité, l'humilité, l'acceptation de sa propre mortalité, la confiance dans les ressources du vivant. Ces vertus dans la culture d'autrui comprennent la politesse, la douceur, le partage, le don désintéressé aux générations futures qui verront l'arbre qu'on a planté, l'invitation à la conversation et à la promenade. Ces vertus dans le souci du monde étaient jadis ornementales, architecturales et esthétiques. Elles comprennent aujourd'hui la connaissance et le respect du vivant, de tout le vivant, et sont l'objet même de l'écologie politique. Si l'on en vient maintenant à la figure même du jardinier, on s'aperçoit que son activité recoupe très exactement les quatre phases du care formalisées par John Tronto. La première phase du care est le souci, l'attention, la sollicitude. La deuxième est la responsabilité. La troisième est la compétence. La quatrième est la reconnaissance par son destinataire du soin prodigué. Un exemple. Dans la relation duel entre la mère et l'enfant, mise en exergue par Carol Gilligan. La mère se soucie de son enfant. Elle s'inquiète et veut le meilleur pour lui. C'est la première phase du care. Elle prend sur elle la responsabilité de s'occuper de lui. C'est la deuxième phase du care. Elle lui prodigue des soins en s'assurant qu'ils sont effectués avec compétence, la sienne ou celle du nourrice. C'est la troisième phase du care. Elle reçoit de son enfant diverses formes immédiates ou ultérieures de reconnaissance pour l'assistance prodiguée. C'est la quatrième et dernière phase du care. Ces quatre phases, souci, responsabilité, compétence, réceptivité, sont accomplies toutes en un par le jardinier ordinaire. Là où, dans les activités de care, elles peuvent sembler, en tout cas, disjointes. Le patron a le souci et est responsable, l'employé a la compétence, le destinataire reçoit le care. La proportion de ces quatre phases du care est certes variable selon la fonction du jardinier. La déesse Koura n'a probablement pas le même visage pour mon mari Jean, seul maître à bord dans nos plates-bandes, pour monsieur Pascal Augrin, jardinier en chef du château de Cerisy, employé de l'association des amis de Pontigny-Cerisy, par nous, ou pour le nôtre, architecte paysagiste, dirait-on aujourd'hui, du surintendant ou du prince. Le jardinier de son propre lopin est à la fois commanditaire, responsable, concepteur, laboureur, semeur, chargé de l'entretien et bénéficiaire de son propre jardin. Est-ce si différent pour les autres cas que j'ai donné en exemple ? Il suffit de lire Gilles Clément pour percevoir à quel point est improprement nommée la seule fonction de concepteur ou d'architecte paysagiste qu'on a pu lui donner, et qui ne lui plaît pas toujours, pour la distinguer clairement à la fois de celle du maître d'œuvre, privé ou public, de celle des employés ultérieurement chargés de l'entretien et de la conservation des jardins qu'il aura conçus, et des promeneurs occasionnels ou des amateurs de jardins qui en auront la jouissance. Si Clément préfère qu'on l'appelle tout bonnement jardinier, dont il revendique la sagesse. Jardinier, titre modeste et, comme il le dit plaisamment, rarement revendiqué. C'est que, me semble-t-il, les quatre phases du care, distinguées par Tronto, sont au fond inséparables. Le dénier, c'est mécaniser le soin, refuser de le considérer comme une position éthique. La quatrième phase, la reconnaissance des soins reçus par le bénéficiaire, n'est en effet possible que si le bénéficiaire lui-même a le souci de soi. La troisième, dispenser les soins, avoir la compétence, ne peut être réussi, sinon il y a maltraitance, possible, que si le soignant lui-même est habité par le souci de son prochain, première phase, et se sent en partie responsable, deuxième phase, et non pas seulement exécutant, troisième phase, du geste qu'il administre. L'impossibilité de réduire le rôle du jardinier, dans son souci combiné de soi, des autres et du monde, à l'une des quatre phases du care, trouve son pendant dans le caractère inclassable de son activité parmi les trois catégories de la vita activa distinguées par Hannah Arendt. Le travail, l'œuvre et l'action. Le jardinage est en effet à la fois travail, œuvre et action, et ni totalement l'un, ni totalement l'autre. Est-ce un travail ? Oui, puisque c'est un métier et une activité de production vivrière. Non, parce que c'est aussi et peut-être avant tout un passe-temps pour celui qui le fabrique et un divertissement pour celui qui en jouit. et que, contrairement à l'agriculture ou à l'horticulture, la production du jardin n'est pas censée, du moins en principe, donner lieu à une économie marchande, tout au plus à du troc communautaire. Est-ce une œuvre d'art ? Oui, à cause de sa finalité esthétique, qui autorise La Fontaine, dans Le Songe de Vaux, à mettre la fée Hortésie, allégorie du jardinage, sur le même plan qu'Apellanir, la peinture, Palassiane, l'architecture, et Calliope, muse de la poésie. Non, à cause de son caractère éphémère. L'œuvre d'art, achevée, signée, promise à la contemplation de la postérité, et, selon Rilke, écrivant à Lou Andreas Salomé, à l'écart de tout hasard, soustraite à tout équivoque, ravie au temps et donnée à l'espace, est durable, apte à l'éternité. Tandis que le jardin, rarement signé, immergé dans le temps et l'incertitude, soumis aux caprices du ciel, des éléments et des animaux qui y impriment leurs pattes, excusez-moi, impossible à achever et à conserver tel quel, sauf au prix d'une volonté patrimoniale conservatrice parfois désastreuse d'un point de vue écologique, s'il est une œuvre d'art, est une installation artistique plus ou moins éphémère, plus ou moins durable. Est-ce une action destinée à transformer le monde ? Non, dans la mesure où cette dernière, selon Arendt, ne concerne les humains que dans la sphère publique, et que, par sa clôture, le jardin, on l'a vu, protège l'homme des tourbillons, voire des agressions de cette dernière. Mais oui, dans la mesure où il sert aussi à refonder la civilité et la sociabilité en danger. Travail sans être un labeur, œuvre sans être un monument, action publique sans publicité. Le jardin est une activité qui transcende la répartition socialisée des tâches dans la communauté des hommes. L'art des jardins est un artisanat qui se transmet et se transforme. Si la partie liée avec l'architecture et l'ornementation, il n'en est pas moins, parce que c'est un art du vivant, plus proche de l'art de la conversation que de la sculpture. Et que peut être un art du vivant, si ce n'est un art de vivre ? Aujourd'hui, à quoi peuvent nous servir les jardins ? Selon Harrison, dans un monde technologique où nous préférons le virtuel au visible et l'image des choses à leur apparition, le jardin peut nous apprendre à retrouver le sens de la contemplation, à guetter le surgissement des apparences dans le temps et l'espace réel, à voir le visible, à apprendre à vivre, c'est-à-dire d'abord à accepter de mourir et de retourner à l'humus dont Koura nous a formés et où tout vivant, y compris le jardinier lui-même, retourne. Leur élaboration s'inscrit dans un temps qui dépasse en amont et en aval le bref âge de notre vie. C'est pourquoi, dans notre époque présentiste, qui n'a cure ni du passé ni de l'avenir, ils peuvent nous réapprendre ces grandes vertus épicuriennes que sont la patience, la reconnaissance et l'espoir. Je vous remercie.